Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est minuit en temps universel, 2h ici à Paris, le journal.
Pierre Boudias.
Donald Trump fête ses 100 jours au pouvoir par un recul de la croissance. 3 mois après le retour aux affaires du président américain, le PIB se contracte de 0,3% sur un an. Un reliquat de l'administration Biden, selon le locataire de la Maison Blanche. La colère monte à l'université sénégalaise Alioune Diop de Bambay. Les étudiants dénoncent une dégradation continue de leurs conditions d'études. Ils menacent de cesser de payer le loyer de leur chambre universitaire. La droite conservatrice a le vent en poupe en France. Plus de 121 000 adhérents se sont inscrits sur les listes pour élire le futur président des Républicains. La preuve d'un retour en force du parti selon ses cadres. Et puis le bruit des foreuses va-t-il bientôt venir déranger la quiétude des fonds marins? Une entreprise canadienne a déposé auprès des États-Unis une demande d'exploitation des grands fonds dans le Pacifique. Des territoires sur lesquels Washington n'a pourtant aucune autorité. Les 100 plus grands jours que les États-Unis n'ont jamais vus. C'est par ces mots que Donald Trump a célébré les 3 premiers mois de sa seconde présidence hier. Un triomphalisme quelque peu atténué cependant par une mauvaise surprise, l'annonce d'une contraction de 0,3% du PIB américain sur un an. Une surprise annoncée par le ministère du Commerce que le président américain s'est empressé d'attribuer à l'administration précédente. Anoushka Kumor.
La contraction du PIB américain a surpris comparé à la fin 2024. La première économie mondiale affichait à l'époque une croissance de 2,4% du plein emploi et une inflation en passe d'être maîtrisée. C'est la baisse des dépenses de l'État fédéral et la hausse des importations qui sont à l'origine de ce brusque recul de l'économie. Les acheteurs ont choisi de constituer leur stock afin de profiter de meilleurs prix avant l'imposition des surtaxes douanières par Trump. L'incertitude domine à Wall Street et dans le secteur privé où les créations d'emplois ont fortement ralenti. Un effet boule de neige n'est pas à exclure, avec des consommateurs qui revoient leurs priorités, des distributeurs qui ont moins de biens à vendre, des transporteurs qui en ont moins à convoyer et de possibles plans sociaux. Contrairement aux objectifs de la politique commerciale de Donald Trump, les États-Unis ne produisent pas encore davantage alors qu'ils ne peuvent plus acheter bon marché à l'étranger.
Agnieszka Kumor et les États-Unis qui annoncent ce soir la conclusion d'un accord avec l'Ukraine sur l'exploitation des minerais. Le texte accorde à Washington un accès préférentiel sur les nouveaux contrats portant sur les ressources naturelles ukrainiennes. Kiev conservera l'entière propriété et le contrôle de ses ressources, y compris le sous-sol, selon le gouvernement ukrainien. Un bel accord international équitable, réagit le premier ministre ukrainien Denis Shmigal. Dans ce contexte, l'armée russe dit progresser dans le nord de la région de Donetsk. Moscou assure s'être emparée d'un nouveau village dans la zone, malgré les tractations diplomatiques pourtant en cours autour d'un cessez-le-feu. L'armée ukrainienne dénonce même une augmentation de l'intensité des hostilités dans le secteur de Pokrovsk, au sud de la région de Donetsk. Pour rappel, Vladimir Poutine a annoncé qu'une nouvelle trêve aurait lieu du 8 au 10 mai prochain. RFI, il est minuit 3 à Dakar, le Sénégal, où les 10 000 étudiants de l'université Alioune Diop de Bambay, au centre du pays, tirent la sonnette d'alarme. Voilà plusieurs semaines qu'ils dénoncent une dégradation continue de leurs conditions de vie et d'études. Dans un nouveau communiqué, ils appellent le gouvernement à honorer ses promesses et notamment à livrer une nouvelle cantine toujours en construction et menacent désormais de ne plus payer le loyer de leur chambre universitaire. Mohamed Malinilo est président de l'Amicale des étudiants de Bambay. Il est au micro de Lisa Vesteroff.
Cette année, nous avons accueilli plus de 3500 nouveaux bacheliers. Et depuis l'arrivée en mars de ces derniers, nous avons constaté d'énormes difficultés, notamment sur le volet de l'hébergement et de la restauration. Sur l'hébergement, déjà, il faut noter qu'il n'y a plus d'espace dans les campus. En marge de cela aussi, il y a une pénurie d'eau qui s'installe et le problème aussi de connectivité au niveau des campus. Et je pense que ce qui pouvait pallier à tous ces problèmes-là, c'est la livraison du restaurant à capacité d'accueil de 1000 places et du service médical. Malheureusement, le constat est fâcheux, parce qu'en dépit de toutes les promesses formulées par le ministre de l'Enseignement supérieur, aucune avancée sérieuse n'a été notée sur ces travaux de construction.
En République démocratique du Congo, l'étau se resserre autour de l'ancien président Joseph Kabila. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé ce soir que le procureur général des forces armées a déposé ce mercredi une requête au Sénat pour obtenir la levée de l'immunité de l'ex-président, ce qui permettrait des poursuites à son encontre pour trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les autorités maintiennent que Kabila, au pouvoir de 2001 à 2018, est le cofondateur de la rébellion de l'AFCM-23 active dans l'est de la RDC. Un mot de la situation en Syrie où l'ONU dénonce des violences inacceptables après des affrontements communautaires. Les forces de sécurité sont déployées dans la banlieue de Damas où des combats entre soldats du régime, groupes armés et minorités druzes ont fait une trentaine de morts selon un dernier bilan. Des affrontements débutés il y a deux jours après la diffusion d'un audio attribué à un membre de la communauté druze et jugé blasphématoire envers l'islam. Autoproclamé protecteur de la communauté druze, Israël a frappé les environs de Damas aujourd'hui. Bombardement d'avertissement selon l'armée. Il est 2h05 ici à Paris, la France, où ce début de printemps marque l'heure des élections internes au sein de nombreux partis politiques. C'était il y a 10 jours pour les écologistes. Les socialistes choisiront eux leur futur secrétaire général en juin. Et du côté des Républicains, le duel entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ce sera du 17 au 18 mai. Dans ce contexte, c'est un chiffre clé qui a été publié hier. Plus de 121 600 adhérents sont inscrits sur les listes électorales pour le congrès qui se tiendra d'ici 15 jours. Raphaël Delvolvé à LR, ce chiffre suscite l'enthousiasme.
On est crédible, se félicite un élu LR. Le parti a plus que doublé son nombre d'adhérents. Ils étaient 43 000 en février dernier. Ça traduit la mobilisation des deux candidats, estime un sénateur. Les camps adverses tirent la couverture à eux. Il y a un élan Retailleau, entend-on chez les soutiens du ministre de l'Intérieur, convaincu que son action Place Beauvau mobilise. Un réveil de la base pour les provoquer, qui axent leur campagne vers les militants. Dans les fiefs des deux candidats, en tout cas, le nombre de cartes a bondi, multiplié par 10 en Haute-Loire chez Laurent Wauquiez, où il y a désormais 2000 adhérents. Bruno Retailleau, lui, fait x5 en Vendée, avec à peu près 1600 votants intégrés aux listes. Ce qui alimente d'ailleurs la défiance au sein d'un parti qui a déjà connu les fraudes. Chaque adhésion a été scrutée et le vote électronique est sécurisé, assure la Haute Autorité, qui pour la première fois d'ailleurs proclamera les résultats par département. Si la plupart des présidents des 105 fédérations LR donnent, comme les sondages, un net avantage à Bruno Retailleau, le nombre relativement important d'électeurs laisse une part d'incertitude. Il reste 3 semaines de campagne.
Raphaël Delvolvé, nous en parlions en début de journal. Les 100 jours du second mandat de Donald Trump, marqués par des attaques inédites contre le multilatéralisme et les coopérations internationales, démantèlement de l'aide au développement américain, retrait de l'accord de Paris, de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont désormais les eaux internationales qui sont menacées. Une entreprise canadienne vient de demander l'autorisation aux États-Unis d'aller miner des métaux dans les grands fonds au milieu du Pacifique, là où le pays n'a pourtant aucune autorité, Simon Rosé.
TMC The Metals Company est une société qui entend devenir la pionnière de l'exploitation minière des grands fonds marins et vise une zone en plein milieu du Pacifique à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Mais voilà, on se trouve en zone internationale. Les éventuels permis d'exploitation sont fournis par l'Agence internationale des fonds marins, instance de l'ONU dont les membres débattent de l'intérêt de perturber un environnement encore épargné par les activités humaines et font patienter TMC depuis plusieurs années. Lasse d'attendre, la société se tourne donc vers les États-Unis. Elle vient d'y déposer une demande de permis d'exploitation en vertu d'un décret pris par Donald Trump il y a quelques jours, facilitant cette activité même en zone internationale, en dehors donc de la juridiction américaine. Des conventions cependant existent, notamment celle sur la haute mer. Celle-ci est reconnue comme un espace international patrimoine commun de l'humanité avec un régime de non-appropriation de ses ressources. C'est donc une attaque frontale contre ces principes. Reste à voir si les États-Unis iront jusqu'au bout. La réponse sera connue dans les 60 jours qui viennent, le délai octroyé pour répondre à la demande de The Metals Company.
Simon Rosé, un mot de football et le spectacle était à aller chercher du côté de la Catalogne ce soir. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se sont neutralisés au terme d'une incroyable demi-finale aller de Ligue des Champions. Score final, 3-0, grâce notamment à un doublé de Denzel Dumfries et un bijou du jeune Lamine Yamal. Les deux géants se retrouveront mardi soir à Milan pour un retour qui s'annonce déjà explosif. Et puis le monde est orphelin de sa doyenne depuis ce soir. La nonne brésilienne Cambaro Lucas est décédée à l'âge de 116 ans. C'est ce qu'a annoncé la congrégation des sœurs thérésiennes au sein de laquelle vivait cette femme dans la ville de Porto Alegre. Née le 8 juin 1908, elle avait été reconnue comme la doyenne de l'humanité après la mort en janvier dernier de la japonaise Tomiko Itoka, également âgée de 116 ans. C'est le groupe de recherche en gérontologie des États-Unis qui nous l'apprend. RFI, il est presque 9:10 en temps universel. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.